Alors, vous écoutez En profondeur à CKUT 90,3 FM. C'est le temps de l'attente attendue, chronique des apatrides anonymes. Salut Mathieu.
Salut Gabriel. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Je suis contente de te voir.
Ben moi aussi. Ça fait un bout.
Ben oui, ça fait un bout. Fait qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde de l'immigration?
Ben, immigration, racisme, sécurité nationale, toujours malheureusement beaucoup d'actualités plus ou moins intéressantes, mais bon, on essaie d'apporter ça avec notre point de vue et mettre ça en perspective pour bien le présenter, que les gens comprennent, parce que c'est important. Commencer par, c'est un truc un peu particulier, c'est le gouvernement fédéral qui, je sais pas si tu as remarqué, depuis quelques mois, est dans un beat de consultation tout azimut. Il consulte tout le monde, surtout de façon plus ou moins sérieuse.
En deux selfies, évidemment. Là.
En deux selfies, exactement, et entre deux apparitions dans un talk show. Donc, on consulte, on prend pas vraiment de décision, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses qui ont été faites, entre autres revenir sur beaucoup de choses qu'avaient faites les conservateurs. Et ça, c'en est une sur la sécurité nationale. Il y a une consultation sur Internet depuis le début septembre. C'est jusqu'au 1er décembre. Et on demande autant aux experts qu'aux citoyens ordinaires leur opinion et leurs conseils sur comment gérer la sécurité nationale. C'est quand même pas rien. Il y a eu des rencontres, évidemment, préparatoires. On va en avoir d'autres avec des experts, avec des flics, avec, bon, du monde du milieu de la sécurité. Mais là, on demande aux citoyens, citoyennes, canadiens, canadiennes de se prononcer sur Internet, sur le site du ministère de la Sécurité publique, sur un paquet d'enjeux. Puis on dit que c'est la façon de répondre au fait que les conservateurs n'avaient pas consulté les gens sur C-51, le fameux projet de loi antiterroriste qui a été adopté en 2015. Et là, on dit qu'on consulte les gens en leur demandant de répondre à des questions sur Internet, mais c'est des questions à la fois très générales et il y en a d'autres qui sont très précises et très orientées, évidemment, on s'entend. Et je sais pas comment les gens vont se retrouver là-dedans parce que c'est assez complexe et assez long aussi, d'ailleurs. Donc, c'est une façon de dire qu'on consulte, finalement, les Canadiens. Mm-hmm. Parce qu'on se rappelle que les libéraux avaient voté en faveur du projet de loi C-51 en 2015 en disant qu'elle allait le modifier. Donc, c'est un peu ça qui se passe actuellement. On dit qu'on va faire, à partir des résultats des consultations, on va avoir 4 projets de loi sur différents sujets qu'on n'identifie pas pour l'instant. Mais c'est sûr que ce qui avait été beaucoup dénoncé de C-51, c'était des pouvoirs accrus pour le SRS, entre autres, qui pouvaient carrément déjouer des complots en intervenant de façon criminelle ou active dans, supposément, des complots. Les partages de renseignements entre les différents ministères aussi qui avaient été beaucoup dénoncés. Et aussi l'utilisation de la loi contre la propagande dite terroriste, donc qui pouvait inclure à la fois les groupes qui font des actions directes, par exemple, sur l'environnement ou sur l'économie, parce qu'ils pouvaient mettre en danger la sécurité nationale. Donc, c'était vraiment un projet de loi qui avait été dénoncé beaucoup. Et là, on promet de le réformer ou de le modifier. Mais finalement, on y va avec une consultation publique et on ne sait pas c'est quoi la suite. Donc,
une consultation publique, c'est plus un sondage en ligne. Là,
Sondage en ligne, tu as tout à fait raison, exactement. Parce que... te donner un exemple, là. Je suis allé voir un peu le site, les sujets là dont on veut avoir l'opinion des gens, plus que les idées, finalement. Réduction de la menace, communication interne d'informations sur la sécurité nationale, procédure d'inscription à la liste des entités terroristes, renseignements et preuves, évidemment, programme de protection des passagers en avion. Donc, c'est des sujets quand même assez sérieux.
C'est touffu aussi, là. J'imagine que si tu n'as pas une connaissance préalable du sujet, tu peux pas du tout...
Oui, puis tu n'as pas regardé les différents points de vue qui existent déjà, évidemment. Donc, on demande des questions comme quelles mesures le gouvernement devrait-il prendre pour renforcer la responsabilisation des institutions de sécurité nationale au Canada? Dans un environnement où la menace terroriste évolue, le gouvernement a-t-il ce dont il a besoin pour protéger les Canadiens tout en protégeant les droits et libertés? Mm-hmm. Ça, c'est des questions générales. Dans la section réduction de la menace, par exemple, il y a un préambule. Ensuite, il y a des questions qu'on pose. On demande, compte tenu de la nature des menaces qui pèsent sur le Canada, quels sont les pouvoirs que le CRS devrait avoir pour contrer ces menaces? Les menaces qu'on définit comme étant, évidemment, le terrorisme et tout et tout, mais ça reste large. Les mesures de protection dont sont assortis les pouvoirs du CRS en matière de réduction de la menace sont-elles suffisantes pour garantir que le CRS utilise de façon responsable et efficace? C'est quand même assez. Et comment faire pour que le mandat du CRS ne porte pas atteinte à la Charte des droits et libertés?
Oh my God! Ben voyons donc!
C'est quand même quelque chose. Hein? Donc, ça, c'est un peu ce qui a été lancé par le ministre Ralph Goodale début septembre. Et... comme je te dis, on parle de projet de loi à venir, mais on n'a pas vraiment d'informations plus précises là-dessus. Donc, écoute, les gens peuvent aller faire un tour pour voir un peu peut-être c'est quoi, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui sont orientées, comme je disais tantôt, mm-hmm. et qu'on va se servir de ça, je ne sais pas comment, pour justifier je ne sais pas quoi. C'est mm-hmm. ça qui risque d'arriver. Mais pendant ce temps, sur le terrain, sur le plancher des vaches, il y a deux cas que je voulais vous parler. Il y a un Ontarien de Markham, près de Toronto, qui est bloqué à Amsterdam depuis une semaine, parce que son nom se retrouve sur la liste d'interdiction de vol des États-Unis. C'est un citoyen canadien d'origine indienne, s'appelle Nakak Partab Singh, et il est bloqué à Amsterdam parce que KLM a décidé qu'il ne peut pas monter à bord parce qu'il est sur la liste d'interdiction de vol des États-Unis. Et ce qui est un peu particulier, c'est que lui, c'est la première fois qu'il entend parler de ça, il a souvent pris l'avion pour aller en Inde, il est allé en Inde, là, il revient, puis il ne peut pas revenir, puis il avait pris KLM à l'aller, puis il avait passé par Amsterdam aussi, donc, tu vois un peu le genre de situation. En plus, quand il a été interdit de vol, tous les passagers ont été informés du fait que le vol était retardé parce que lui, il ne pouvait pas être sur le vol parce qu'il est dangereux. Hey, ses bagages sont retenus depuis une semaine. Il réside dans un temple sikh à Amsterdam en attendant. Finalement, il a demandé de l'aide à l'ambassade canadienne, qui lui ont dit qu'il devait lui-même contacter les autorités américaines pour se faire retirer de la liste. Imagine la situation. Finalement, vendredi, Ottawa a annoncé qu'il y aurait une aide consulaire pour l'aider, mais le transporteur attend une lettre officielle du Canada pour dire qu'il est pas dangereux. Mais là, c'est les États-Unis qui l'ont mis sur une liste. Fait que tu vois un peu l'imbroglio complètement kafkaïen. Et ça rappelle ce qui s'est passé au début de 2016. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été dénoncés dans les journaux, dans les médias. Entre autres, parce qu'il y avait des enfants qui se retrouvaient sur la liste et que les parents ne pouvaient pas prendre l'avion avec leur enfant qui était bloqué à cause qu'il y avait le même nom.
Les enfants étaient sur la liste.
Il y avait le même nom que l'autre était. Exactement. Donc, M. Goodell, encore lui, avait promis de la création d'un bureau fédéral qui allait mieux gérer ça, mais c'est annoncé pour dans 18 mois, ce bureau-là. Mm-hmm. Donc, ça va être assez long. Et pour finir sur le cas de M. Singh, le ministre dit que c'est pas de sa responsabilité s'il est sur une liste étrangère. Son conseiller, son attaché de presse, à M. Goodell, dit que c'est approprié que les autres gouvernements aient leur propre liste de sécurité. Mais là, c'est un citoyen canadien. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, il renvoie encore M. Singh au fait de se plaindre auprès des autorités américaines. Il est prêt à Amsterdam, pas d'argent, dans un temple sikh, puis il est supposé régler son dossier par téléphone ou je sais pas comment. Fait que là, j'imagine que ça va bouger dans les prochains jours, mais mm-hmm. ça fait une semaine, ça dure. Donc, ça, c'est un cas qui répond un peu à ce que les Canadiens auraient peut-être besoin au niveau de la sécurité nationale.
Ça allait remplir le sondage.
Oui, c'est ça. Puis l'autre cas, c'est quelqu'un d'assez connu, Mahmoud Jabala, qui était un des 5 des certificats de sécurité du début des années 2000, qui est toujours sous la menace d'une déportation en raison du certificat. Et la Cour d'appel fédérale a encore une fois rejeté la tentative du gouvernement de parce que le certificat avait été cassé par un juge d'une instance inférieure. Et là, la Cour fédérale dit non, c'est correct que le juge inférieur ait cassé le certificat de sécurité. Et le gouvernement canadien continue à contester cette décision-là et tient absolument à le déporter. Il a son certificat depuis 2002. Il a été en prison. Il est sous des conditions comme un bracelet depuis des années. Il a 54 ans maintenant. Et ils disent toujours qu'il est membre d'un groupe terroriste et ils veulent toujours le déporter, Jabala. Donc, il y en a que c'est réglé, comme Sharkawi, c'est réglé, mais mm-hmm. il y en a d'autres pour qui c'est pas réglé. Donc, voilà. Ça, c'est un des cas concrets dont on pourrait s'occuper au lieu de consulter à tout azimut pour un oui pour un non. Donc, mm-hmm. Voilà, c'est ça que je vais faire comme lien.
j'ai comme envie d'aller remplir le sondage. Tu sais, c'est des questions oui-non, tu sais, c'est... Enfin,
ça ouais, ouais. Ou des questions ultra précises, oui. C'est ça. Mais il y a des cas réels.
Vous sentez-vous en sécurité au Canada? Oui? Non? Bonhomme sourire?
Peut-être.
Peut-être.
Je vais passer en Europe pour quelques petites nouvelles. Hongrie, on en a parlé beaucoup depuis 2 ans, depuis que le premier ministre Viktor Orban, d'extrême droite, est au pouvoir. Et il a été très actif dans la fermeture des frontières dans les Balkans et en Europe l'année passée pour les migrants. Et là, il avait organisé un référendum il y a 2 semaines pour demander à sa population de rejeter, dans le fond, les quotas de migrants que l'Europe veut distribuer à chaque pays en disant selon votre population, on peut en recevoir tant. Fait que lui, il veut absolument pas de ça depuis le début, il l'a toujours dit. Donc, il a fait voter sa population pour rejeter ça. Finalement, il s'est fait avoir parce que l'opposition à sa politique, a décidé de boycotter l'élection. Il fallait qu'il y ait 50 % des gens qui participent, et il y a seulement eu 45 %, donc son référendum n'a pas pu être valide. Ceux qui sont allés voter en majorité dans le même sens que lui. Puis on se rappelle qu'Orban a fait ériger une clôture de barbelés le long de la frontière sud du pays l'année passée, surveillée par les policiers et les militaires. Mais quand même que l'an dernier, à travers tout le million de migrants qui sont passés par là, il y a quand même 200 000 d'entre eux qui ont fait une demande d'asile en Hongrie, et il n'y a toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Et cette année, il y a seulement eu 18 000 qui sont rentrés en Hongrie, malgré la clôture et les barbelés, les caméras de surveillance. Mais quand même, il y a eu en fin de semaine plusieurs manifestations, la fin de semaine du référendum, plusieurs manifestations contre la politique d'Orban, la politique raciste d'Orban, et contre le scrutin, finalement. Donc, bon, quand même, ça bouge pas juste dans un sens en Hongrie, mais donc une autre tentative d'Orban de fermer complètement son pays qui a échoué temporairement. On verra la suite, là, parce que les quotas de l'Union européenne, c'est loin d'être réglé et d'être fait. Sinon, vous dire qu'on suit aux apatrides aussi toute la situation en France des migrants, particulièrement ce qui se passe à Calais. On en a parlé à plusieurs reprises et ça continue. C'est une saga qui continue dans un contexte assez délétère de campagne pré-présidentielle et de primaire de la droite où tout le monde se la joue le plus populiste et le plus raciste possible et le plus dur avec les migrants. Hollande a annoncé fin septembre qu'elle allait démanteler définitivement la jungle de Calais, où il y a actuellement entre 7 et 9 000 personnes. Ça s'est un peu... Il y avait vidé une partie, mais les gens sont revenus depuis quelques mois. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'il a annoncé ça pour sa première visite en 5 ans à Calais. C'est surprenant avec tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. C'est la première fois qu'il allait à Calais en personne. Et il a annoncé que 80 % de ceux qui vivent à Calais, qui ont le droit d'asile en France, seraient répartis dans plus de 80 départements français. Et là, moi, j'ai suivi un petit peu dans l'actualité. On commence à voir les communes, surtout celles FN et plus à droite, qui disent, nous, on n'en veut pas des 25 migrants que vous voulez nous donner dans notre village. Et là, c'est un peu la liste et la valse de tous ceux qui veulent rien savoir, toujours dans le contexte électoral en plus. Donc, il y a ça de côté. Puis de l'autre côté, l'Angleterre, finalement, a annoncé 3,2 millions pour construire un mur de 4 mètres de haut le long de la route qui mène à l'Eurotunnel, finalement, à Calais. Il y avait déjà une clôture, mais là, ils veulent faire vraiment un mur de 4 mètres de haut avec caméras de surveillance, avec un système de type OTAN là, pour anti-franchissement. En tout cas, la grosse affaire de fou. Ça, c'est l'Angleterre qui a décidé de payer ça tout seul, pour l'instant.
C'est fin,
hein? C'est une belle contribution à la répression, oui, tout à fait. Mais, sauf qu'on diminuera pas le nombre de CRS, c'est ce qu'a dit le préfet de Calais, parce que le mur, il est là, mais quand même, il y a d'autres dommages, il y a d'autres problèmes. Mais là, il y a beaucoup de gens qui disent, même la mairesse de Calais dit, pourquoi on construit un mur si on veut vider le camp en même temps? Il y a comme une espèce de politique qui est contradictoire, dans le fond. Puis là, il y en a qui répondent, de toute façon, ils vont revenir, fait qu'il faut aussi bien avoir un mur, mais tu sais, c'est une espèce d'ambiance complètement fou. Et s'il me reste 2 minutes...
Il te reste 2 minutes.
Parfait. En France, il y a toujours l'état d'urgence. Les manifestations, c'est pas évident. Et tout ça, on continue dans le délire. Et le 1er octobre, ça fait quand même quelques semaines, je voulais en parler, il y a près de 200 personnes qui ont essayé de partir en autobus de Paris pour aller faire une manif à Calais, pour appuyer une manif qui avait déjà lieu pour appuyer les migrants. Et finalement, ils n'ont jamais réussi à se rendre parce que le 29 septembre, donc 2-3 jours après que Hollande soit passé à Calais, il y a eu une interdiction de manifester dans tout le Grand Calais. Toute manifestation interdite, sous prétexte de troubles à l'ordre public. Donc, on parle d'expulsion des gens, on veut pas de manif, on fait un mur, tu sais, on voit l'ambiance, c'est vraiment joyeuse. Et donc, interdit de faire preuve de solidarité, finalement, aussi avec les gens. Donc, 4 bus qui sont partis avec des sans-papiers, entre autres, pour Calais. Ils ont été arrêtés à 3-4 reprises sur l'autoroute, puis ils ont été bloqués à 30 km de Calais par la police. Ils ont vérifié les identités de tout le monde, ils ont donné des constats aux conducteurs, en tout cas la répression, l'intimidation. Fait que ça pour dire que les gens ont manifesté quand même à 30 km de Calais, sont revenus à Paris finalement escortés par la police jusqu'à Paris. Wow. Mais on parle de frontières à l'intérieur de la France là, par rapport en lien avec l'état d'urgence, l'interdiction de manifester. Donc c'est assez triste, disons, qu'est-ce qui se passe actuellement en France. Et peut-être dire que 10 associations qui viennent en aide aux migrants à Paris, dont des assez straight comme l'Armée du Salut, la Fondation Abbé Pierre, ont tous demandé qu'il y ait un plan d'urgence pour la localisation, l'hébergement des migrants, parce qu'il y a plusieurs plusieurs camps qui se font expulser régulièrement à Paris assez violemment, en dessous des ponts, dans des, bon, des occupations de lieux. Et là, on demandait vraiment qu'il y ait un plan, dont la réquisition de bâtiments publics pour héberger les gens, parce que non seulement il y a des gens à Calais, mais à Paris, mais ceux de Calais vont se retrouver entre autres à Paris, et ils en rentrent toujours de plus en plus. Ben, pas de plus en plus, mais ils en rentrent régulièrement. Donc, puis il y a eu des expulsions assez violentes de squats ou de lieux d'hébergement de migrants dans les dernières semaines, dont des mille d'un coup, tu sais, des grosses opérations policières, et ils sont supposés être relogés, mais ils ne sont pas finalement. Fait que finalement, il y a quand on s'est rendu les associations même assez straight, assez religieuses ou assez comme l'Armée du Salut, ouais, demande qu'il y ait un plan d'urgence et qu'on prenne des bâtiments pour loger les gens, là, il y a quelque chose qui se passe qui va pas bien de ce côté-là.
Wow! Eh bien, c'est le temps d'aller en France, hein? Ça semble être un pays agréable à visiter, là.
Oui, on se demande si l'état d'urgence va être permanent, finalement.
Oui, ben, peut-être, mais pourquoi pas? Ils ont sûrement un sondage, là. Est-ce que l'état d'urgence est nécessaire, considérant la menace qui, en France,
qui s'amplifie?
Peut-être, je ne sais pas trop.
Puis si c'est la droite ou l'FN qui rentre en mai prochain, ça va être très joyeux.
La question ne se pose même pas.
Ouais. Gabriel, je veux dire merci pour tes nombreuses années à nous recevoir comme chroniqueur à l'émission.
Oui, c'est ma dernière émission.
Officiellement.
Officiellement, oui, c'est ça. Je sais pas qui annonce qu'il fera plus jamais le bye-bye là, depuis des années. C'est
Dominique Michel, c'est sûr. Ben oui.
Fait que peut-être. Mais un break, en tout cas, de en profondeur là, pour le moment. Mais je suis contente d'avoir eu la chance d'avoir... Les Atrides anonymes à ma dernière émission.
Puis nous, ça fait à peu près 7 ans qu'on est là, fait que on en a vu plusieurs animateurs et animatrices, mais toi, t'es une de celles qui a été là longtemps. Donc, merci encore.
J'ai fallu aimer ça. Ça conclut sur cette jolie note l'émission d'aujourd'hui. Vous écoutiez en profondeur à CKUT 90,3 FM. On se rejoint la semaine prochaine à 17h le lundi soir. Manquez pas ça, sinon il y a toutes sortes d'autres merveilleuses émissions à CKUT. Bonne soirée!